Chapitre 18e, le patriarche. Parmi les plus injustes et les plus irréconciliables ennemis du patriarche, Eugraphia, une des dames choyées de l'impératrice, tenait la première place. Elle recevait chez elle, elle écoutait avec plaisir tous ceux qui élevaient contre Chrysostome des plaintes ou des calomnies. Dès le principe, elle l'avait vu, avec le plus grand des plaisirs, succéder au patriarche Nectarius. Nectarius était son parent et son ami. C'était un mondain brillant, qui aimait les joies de la vie et les concédait aux autres, homme tout à fait incapable de comprendre ses devoirs sacrés et aussi peu disposé à les remplir. Une triste méprise du grand Théodose, qui s'était montré plus habile dans le choix de ses généraux que dans la promotion d'un prêteur de Constantinople au siège archiépiscopal. Nectarius, pendant 17 ans, tint en main la houlette pastorale, plutôt qu'il ne dirigea le troupeau de son église. Pendant ce temps, une partie du clergé avait perdu toute règle et toute discipline. L'ambition, l'avarice, le goût des plaisirs du monde, l'abandon des devoirs d'État ne furent plus considérés et traités comme quelque chose d'inconvenant. La faveur et l'argent conduisaient aux sièges épiscopaux dont Nectarius était métropolitain. Le grand monde, corrompu par l'influence de Ruffin et d'Eutrope, était très indifférent pour le relâchement d'un clergé avec lequel il sympathisait par la corruption des mœurs. Mais le peuple, l'homme de la basse classe, le détestait, et il comprenait dans son mépris, outre les prêtres dévergondés, les moines vagabonds, qui, sans permission et sans mission, inquiets, curieux de voir le monde, quittaient leur cloître, et par leurs airs extravagants et leur conduite quelquefois pire encore, donnaient au peuple 1000 sujets de scandale et de déplaisir. Eugraphia n'avait point d'enfant. Elle n'avait qu'un neveu qu'elle aimait avec une tendresse idolâtre, et auquel elle destinait sa grosse fortune. Elle frémissait à la pensée que Génius, embrassant la carrière des armes, pourrait perdre la vie en se battant contre les barbares. Elle l'éleva avec tant de mollesse et de faiblesse qu'elle fit passer en lui l'horreur que lui inspirait la vie militaire. Pour échapper au service, il entra dans les vues de sa tante et reçut les ordres sacrés avec la pensée de succéder plus tard, sinon immédiatement, à son oncle Nectarius. Quant à la question de savoir si Eugénius avait la vocation sacerdotale, ni lui, ni Eugraphia, ni le patriarche ne s'en soucièrent, et Eugénius fut fait prêtre. Cependant, après la mort de Nectarius, un autre esprit souffla sur le clergé. Comme s'il en eût eu le pressentiment, Eugraphia était opposée au choix de Chrysostome. La réputation de haute sainteté, dont il jouissait à Antioche, lui déplaisait. Qu'est-ce que ce prêtre étranger, habitué à la province, viendrait faire dans la capitale ? Lié avec Théophile, patriarche d'Alexandrie, homme d'un orgueil immense et que l'amour de l'argent amenait à la cour plus souvent que les affaires de sa charge, Eugraphia l'aurait préféré à tout autre comme successeur de Nectarius. Et elle se donna elle-même, ainsi qu'un parti nombreux, beaucoup de peine pour arriver à ce résultat. Mais Eutrope était alors le tout-puissant favori, et Eudoxia, avec son entourage particulier, n'avait aucune influence. Eutrope s'était mis cette fois en tête de faire au peuple de Constantinople ce plaisir qui ne lui coûtait rien. Pour finir, Théophile eut l'humiliation de sacrer évêque dans la cathédrale de Sainte-Sophie, cet humble, modeste et pauvre prêtre d'Antioche. Depuis lors, Eugraphia regarda Chrysostome comme une créature d'Eutrope. Elle soutint qu'il était de connivence avec lui et elle prit à tâche de suspecter et de calomnier tous ses actes. Plus tard s'ajoutèrent des motifs personnels de haine. Eugénius avait reçu les ordres sans rien changer à sa manière de vivre. Chrysostome, qui avait une grande compassion pour ces jeunes gens élevés à une discipline ecclésiastique relâchée, parla à Eugénius avec une douceur paternelle et chercha à lui faire comprendre que la sublime vocation du prêtre demande de la nature humaine des sacrifices que la grâce l'aide à accomplir. Mais comme Eugénius n'était rien moins que disposé au sacrifice, Chrysostome lui déclara qu'un prêtre avec cette conduite et ses sentiments ne pouvait remplir sans sacrilège les fonctions du sacerdoce. Eugénius répondit avec aigreur qu'il n'attachait aucun prix à l'exercice de ses fonctions, qu'il avait eu en vue un siège épiscopal, et que quand il s'en présenterait un pour lui, il pourrait sans doute, grâce à ses nombreux et puissants protecteurs, être sacré évêque. Avec une profonde douleur et une fermeté plus grande encore, Chrysostome répondit qu'un événement aussi déplorable n'arriverait pas tant qu'il serait métropolitain. Eugénius voulait voir dans ses déclarations une offense mortelle. Eugraphia jugea de même et y vit de plus une cruauté. Ses discours contre le patriarche devinrent de plus en plus violents, de plus en plus hostiles. Tout ce qui était imbu de sentiments mondains se serra autour d'elle. Sa maison devint un centre d'hostilité, un foyer de haine contre Chrysostome. Un jour, elle se rencontre avec lui dans l'antichambre de l'impératrice. Il savait qu'elle était mal disposée pour lui, mais il ne savait pas jusqu'où allait son inimitié. Il la salua avec prévenance et la pria d'employer toute son influence pour amener Eugénius dans une meilleure voie. Peut-être que le jeune homme serait plus disposé à écouter les conseils d'une si noble parente que les siens. Enfin, il ne put s'empêcher d'exprimer le désir que Graphia s'efforça de conquérir une influence salutaire sur toutes les dames de la ville pour mettre un frein au luxe et à l'immodestie des toilettes, car il savait combien elle avait d'autorité. S'il avait cru adoucir Graphia en reconnaissant qu'elle donnait le ton à la ville, il arriva à un résultat tout opposé. Elle se sentit blessée que le patriarche voulut lui donner des conseils sur la manière dont elle devait employer son influence, et elle répondit d'un ton sec et froid qu'elle n'était pas la femme qu'il fallait pour se charger de sa commission. Chrysostome ne se borna pas à déployer une sévérité salutaire contre le bas clergé, en interdisant les plus incorrigibles comme Florus et Eugénius. Il se montra aussi rigide pour les évêques placés sous sa juridiction métropolitaine. Dans une tournée qu'il fit en Ionie, il entendit tant de plaintes contre la violence et l'injustice de quelques évêques qui devaient leur siège à des manœuvres entachées de simonie, qu'il se vit forcé de faire une instruction qui eut pour résultat de l'obliger à suspendre ses évêques coupables. Ces mesures soulevèrent contre lui une armée d'ennemis. On savait assez qui gouvernait l'Empire et comment il était gouverné pour espérer gagner les plus mauvaises causes. Seulement, il importait de s'assurer l'assentiment de l'impératrice, soit directement, soit par la voie détournée de ses favoris. Cependant, il y avait un point sur lequel elle avait jusqu'alors toujours soutenu le patriarche. C'était sa conduite à l'égard du clergé. Bien qu'on élevât contre lui les plaintes les plus amères, bien que Marsa et Eugraphia luttassent à qui blâmerait le plus haut ses rigueurs, Eudoxia restait inébranlable et lui donnait raison. Elle était trop habile pour ne pas apprécier le tort qu'un clergé indiscipliné fait à la religion dans l'esprit du peuple, et pour ne pas comprendre qu'un peuple sans respect pour la religion sera bientôt aussi sans respect pour le trône. On lui annonça la visite du patriarche. Eudoxia ne douta pas qu'il ne vînt pour la remercier de la part qu'elle avait prise au pèlerinage de Dripia. Elle reçut avec toute la grâce possible et lui exprima sa joie de voir que sa santé n'avait pas souffert des fatigues de cette journée. « Dieu donne la force de travailler à sa gloire, » répondit doucement le patriarche. « Et la fatigue physique n'est pas ce qu'il y a de plus pénible dans ce qu'il demande de nous. » « Je suis parfaitement d'accord avec votre sainteté, » dit Eudoxia. « Remplir des devoirs élevés, exercer une grande responsabilité, sont des choses incomparablement plus pénibles. » « C'est précisément un de ces devoirs difficiles qui m'amène auprès de l'auguste impératrice, » répondit Chrysostome. « De quoi s'agit-il, mon vénérable père ?» dit Eudoxia très obligeamment. « Votre sainteté est certainement convaincue d'avance que j'irai avec joie au-devant de tout désir pieux. » « Cette parole généreuse me console, madame, car je viens intercéder pour une victime de la calomnie et implorer votre justice. « Recevez-en d'avance mes remerciements, très vénérable père. » La majesté est née sur la terre que pour rendre justice. Vos paroles me donnent une consolation indicible, ô noble souveraine. Permettez-moi donc de vous exposer brièvement la chose. Le proconsul de Cilicie a accusé le tribun Nicator d'être d'intelligence avec les hordes d'Isauriens avides de pillage, qui jusqu'ici avaient borné leurs incursions dévastatrices à l'Arménie et à la Syrie, sans entrer jamais dans l'Asie mineure. Nicator aurait fait aux Isauriens, en échange d'une forte somme d'argent, la promesse de laisser inoccupés, ou au moins sans défense, les défilés des montagnes de Cilicie. Sur cette fausse accusation, Nicator a été chassé de son poste, mis en prison, dépouillé de ses biens, et l'exil est suspendu sur sa tête innocente. Eudoxia l'arrêta brusquement. « Vous êtes mal informé, vénérable père. » dit-elle avec une colère difficilement comprimée. Le procès de Nicator a été instruit et il a été reconnu coupable. Instruit par son accusateur. Reconnu coupable par son accusateur. Et je dois ajouter, dépouillé par son accusateur. Voilà, auguste souveraine, la vérité sur l'affaire Nicator. Chrysostome avait parlé avec douceur et fermeté. « Je vous répète que vous êtes mal informé, vénérable père, » fit Eudoxie avec un ton d'orgueil blessé. « Ce n'est pas le proconsul de Cilicie qui a pris les biens de ce tribun qui a trahi le trône de l'Empire. C'est moi-même, moi, impératrice. Ces biens ont été justement confisqués pour le punir de son crime, et ils appartiennent au trésor impérial. » Sur l'accusation du proconsul de Cilicie, répondit Chrysostome avec une douceur pleine de calme, l'impératrice ne pouvait peut-être pas agir autrement. Mais la justice demande que la conduite du proconsul soit examinée. Oui, et non seulement la justice, le nom auguste de l'impératrice, auquel aucun atome de poussière ne doit s'attacher, le demande. La vive rougeur de la colère fit place à une pâleur mortelle sur le visage d'Eudoxia. « Votre sainteté se laisse emporter trop loin par son zèle pieux, » dit-elle en se contenant avec peine. « Mon nom est au-dessus de toute atteinte. »« C'est pour cela même, » reprit Chrysostome du ton de la prière, « que personne ne doit pouvoir dire avec raison que l'impératrice tient en ses mains le bien d'un innocent. »« Il n'est pas innocent, combien de fois dois-je le répéter ?» fit Eudoxie avec emportement. « La chose est jugée et terminée. La fortune est dans mes mains, et j'avoue que je ne comprends pas votre sainteté. » Je crois que jamais impératrice n'a été plus généreuse que moi envers l'Église. La basilique eudoxienne, qui s'élève sur les ruines du temple de Marnas, engloutit par sa magnificence des sommes énormes. Elle est mon œuvre. L'édifice qui entoure le tabernacle du vrai Dieu doit être plus beau que ne l'était le temple de l'idole. Pensée vraiment digne de l'impératrice, dit Chrysostome. Et ce n'est là qu'une œuvre, continua l'impératrice avec une animation croissante. Mais celles que j'ai encouragées et soutenues sont innombrables. Et jamais on ne m'a adressé pour une église une demande à laquelle je n'ai accédé. Oui, tout ce qui peut, même indirectement, encourager la dévotion du peuple, contribuer à la solennité des cérémonies du culte, me trouve prête à donner à pleine main. Ainsi, les processions du samedi soir ne seraient point aussi édifiantes et aussi solennelles si je ne donnais les cierges et les crucifix argentés. Je me vois forcé de prier votre sainteté de repasser dans votre esprit toutes ces œuvres, depuis la plus grande jusqu'à la plus petite, depuis la construction de la basilique jusqu'au cierge de la procession, et de me dire s'il est possible de faire tant sans disposer de sommes très considérables. Votre sainteté devra se réjouir quand il me vient dans les mains de l'argent que personne n'emploie mieux que je ne le fais. La fortune de Nicator appartient au trésor impérial, elle m'appartient ainsi à moi-même parce que c'est un traître. Tout ce que dit l'auguste impératrice de ses œuvres pieuses en l'honneur de l'Église et de la foi, je le reconnais avec joie et admiration, répondit le patriarche avec sa douce tranquillité. Et tous les jours, ma prière s'élève vers Dieu pour que sa miséricorde récompense mille fois la vôtre. Mais Dieu ne peut voir avec plaisir que la générosité et la miséricorde s'exercent aux dépens de la justice. Nicator n'a été accusé que par le proconsul de Cilicie. Le proconsul est le frère de la noble Marsa qui possède, comme chacun le sait, toute la confiance de l'impératrice. La partialité a donc pu se glisser le plus facilement du monde dans cette affaire. Et n'est-il pas du plus grand intérêt de prouver publiquement qu'elle n'y a point eu de part? Un acte de justice n'édifie pas moins le peuple qu'un acte de miséricorde. Il lui donne peut-être encore plus de confiance dans le souverain, car la justice est un bien auquel chacun tient, que chacun revendique, et auquel chacun a droit. Que l'auguste impératrice laisse donc la justice informer et décider librement dans l'affaire Nicator, et qu'elle n'hésite pas à rendre la fortune aussitôt que son innocence aura été reconnue. Pour faire à l'impératrice de pareils reproches, dit Eudoxia pâle de colère, vous me semblez, vénérable père, n'être pas loin de commettre une offense mortelle envers la majesté, en admettant que je sois d'intelligence avec de faux témoins. Afin de vous imposer une limite nécessaire, je vous prie de vous retirer, et je vous répète que l'affaire Nicator est terminée. » Le patriarche sortit en silence, et Eudoxia resta seule dans une agitation extrême. Voilà le remerciement de ce prêtre hautain pour tous mes sacrifices, pour mes dispositions généreuses à l'égard des œuvres pieuses. Eudoxia parlait à demi-voix. Elle parcourait son appartement d'un pas inquiet et agité, et de temps en temps elle s'arrêtait d'un air pensif. « Il veut, continua-t-elle, s'arroger le droit de surveiller mes revenus. Il veut protéger les individus qui sont condamnés. Il veut soupçonner les gens qui possèdent et méritent ma confiance entière. Et tout cela par esprit de domination. Oh, quel caractère méprisable, surtout chez un prêtre. Maintenant, je commence à comprendre les plaintes amères que le clergé lève contre lui. Quel fardeau insupportable un tel évêque doit être pour ses prêtres, puisqu'il va jusqu'à espionner mes revenus. À combien plus forte raison doit-il espionner tous leurs faits et gestes, et traduire leurs actes à sa barre? Oh, qu'ils sont à plaindre. Je ne dois plus m'étonner si le nombre de ses ennemis grossit de jour en jour, devient un parti puissant, oui, trop puissant. Eugraphia a raison de le haïr. Le diacre Eugénius a raison de se plaindre vivement de lui, car il est certes d'une partialité inouïe, et il se laisse aveugler par ceux qui le flattent en demandant son intercession, et ces évêques d'Ionie qu'il a suspendus, et dont je n'ai jamais voulu écouter les griefs, confiante dans la sagesse et la justice du patriarche, oh combien ils ont raison, et combien j'ai eu tort envers eux. Mais cela doit changer. Je vais faire instruire l'affaire. Avec quelle instance demandait-il l'instruction publique de l'affaire Nicator, qui a été jugée par un homme comme le proconsul de Cilicie, homme que je connais et que j'estime depuis mon enfance? Fort bien, puisqu'il aime tant la procédure, ce juste patriarche. Elle lui plaira sans doute aussi pour lui-même, et qu'elle lui plaise ou non, elle aura lieu.